Nous allons aborder ce matin le texte des disciples d'Emmaüs dans Luc 24. Je commencerai au verset 13. Et voici que, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements, donc les événements, la mort du Christ et sa crucifixion. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Alors l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. Quoi donc ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'ange qui le déclare vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. »
Et Jésus leur dit, « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. »
Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir vient et la journée est déjà avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?»
À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent, « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent tout ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain.
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer une personne que vous connaissez bien, puis, enfin de la retrouver, puis de ne pas la reconnaître. Ça vous est déjà arrivé? Enfin, moi, ça m'est en tout cas arrivé une fois. Je crois bien que c'était Anne-Marie d'Écrevel, si jamais vous la connaissez, à une époque où ils étaient missionnaires en Afrique et je ne savais pas qu'ils étaient rentrés. Je l'ai vu quelque part, je ne l'ai pas reconnu. Et après, je me suis trouvé complètement bête quand j'ai... Voilà, mais voilà. Je pense que ça arrive assez facilement. Pourquoi ? Parce que je ne m'attendais absolument pas à la rencontrer à cet endroit-là. A contrario, il arrive à certaines personnes de croire voir quelqu'un. Moi, je pense à une tante qui me racontait, après la disparition, après la mort de son mari, que... Souvent, elle croyait le voir, l'apercevoir au coin d'une rue. Alors, voir sans reconnaître, c'est un peu c'est cette histoire que nous raconte Luc, qu'on vient de nous lire, à propos de ses deux disciples. Alors, on est à l'époque, nous, entre Pâques et la Pentecôte, entre ce moment de la résurrection du Christ, mais qui est quand même un moment avec pas mal d'incertitudes pour les disciples, et puis la Pentecôte qui va être le moment où il se passe quelque chose qui les envoie en mission à travers le monde entier. Alors quand on lit les récits de la croix et de la résurrection dans Marc, les plus anciens manuscrits Ils ne vont pas tout à fait jusqu'au bout de l'évangile qu'on a dans nos Bibles. Et puis, ils s'arrêtent à ce qu'on appelle la finale courte, hein, qui se termine assez brutalement, parce que ça se termine comme ça, l'évangile dans sa version courte, elles sortirent alors, c'est les femmes qui étaient allées au tombeau, et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et remplies de crainte. Et elles ne dirent rien à personne parce qu'elles avaient peur. Alors ça, c'est un peu bizarre, hein, cette finale de Marc court, mais c'est comme ça que le premier évangile se terminait. Et ça souligne bien cette espèce de difficulté à croire qui est présente chez les disciples et puis qui nous rejoint aussi. C'est pas si simple que ça, la foi. Et l'évangile de Marc fait après allusion à ce même récit qu'on a lu, de manière très courte. Ensuite, Jésus apparaît d'une manière différente à deux disciples qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent et le racontèrent aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Pas beaucoup de foi, hein, là. Alors, pour revenir au récit de Luc, il nous raconte l'histoire de deux disciples qui ont, en somme, perdu la foi. Ils ont perdu toute espérance suite à ce qui s'est passé à la croix. Ils ont l'impression que vraiment tout est fini. Deux jours avant, Jésus est mis à mort publiquement, mais il n'est pas tout seul, hein, il n'est pas tout seul à être condamné à mort, et puis c'est quelque chose d'assez commun à l'époque, qu'il y ait des gens qui se fassent trucider sur des croix, et ça ne fait pas la une des journaux ni de la télé. Hein. Mais enfin, c'est quand même un événement public. Après cela, un lourd silence, le silence du Shabbat, après cette catastrophe pour les disciples. Et puis le dimanche matin à l'aube, des femmes qui se sont levées un peu plus tôt que certains parmi nous ce matin, et l'étonnement de ces femmes devant le tombeau vide. Mais c'est une découverte qui, pour les disciples, à première vue, c'est du délire. Et puis un témoignage de femme, c'est pas très recevable dans cette société-là. On nous raconte que Pierre va voir, il trouve les bandelettes, donc il trouve la même chose que les femmes. Est-ce qu'il revient convaincu? On nous dit qu'il revient étonné. Donc il n'y a rien de triomphaliste dans ce récit-là, dans ces récits de la résurrection. Autant la croix était un événement public, la résurrection, c'est plutôt un non-événement. Il n'y a pas de témoin de la résurrection. Il n'y a que des témoins du ressuscité. Hein? Il n'y a pas de caméra. Et puis on peut se demander ce qu'aurait vu une caméra. Alors ces deux disciples qui ont perdu la foi, finalement ils nous ressemblent quand même. Ils nous ressemblent quand... Après un échec professionnel, par exemple, ou bien un échec amoureux, ou bien une rupture, ou bien une maladie, et puis qu'on est envahi par le découragement, comme ça on sent un état dépressif qui est en train de prendre le dessus, nous envahir, où on a le sentiment que Dieu est absent, qu'il ne répond plus aux prières, on a le sentiment que nos efforts ne servent à rien. Si on est prof, on se met à se dire, oh, mais de toute manière, les élèves, après les examens, ils auront tout oublié. Bon, un sentiment d'abandon. C'est vrai? Voilà. Alors, dans cet état où ils sont, eh ben, leurs yeux sont empêchés de le reconnaître, ils nous disent. Alors bien sûr, il y a une chose, c'est qu'ils s'attendent absolument pas, malgré ce qu'on a raconté, ils s'attendent absolument pas à voir Jésus vivant. Ils viennent de le voir mourir sous leurs yeux deux jours avant. Puis c'est aussi un signe de ce côté assez paradoxal du ressuscité, qui apparaît, qui disparaît. qui n'est pas si évident que ça à reconnaître. Mais ce sont surtout les yeux du cœur qui sont empêchés. Bon, d'une part parce qu'ils sont enfermés dans cet état de déception, de désespoir. Quelque part, ils sont aussi, comme nous souvent, prisonniers d'une fausse image de Dieu. Du Dieu qui aurait dû empêcher que la croix se produise, qui aurait dû résoudre tous les problèmes. Et là encore, il nous ressemble assez. Quand on est découragé, quand on a reçu des critiques. Et puis aussi quand on a des fausses images de Dieu qui sont en nous depuis longtemps et qui, quelque part, nous ferment la porte à recevoir l'amour de Dieu dans les circonstances où on est. Alors le voyageur inconnu, il entame la conversation, puis il joue l'ignorant. Alors c'est assez humoristique, hein, comment Luc nous raconte cette histoire. Vous avez l'air préoccupé, vous parliez de quoi? Mais t'as pas entendu les nouvelles? Ils prennent le voyageur pour un simple pèlerin qui, comme beaucoup de juifs à l'époque, allait fêter, passer quelques jours à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ben non, il s'est passé quoi? Alors ils se mettent à raconter ce qui s'est passé, puis surtout ils expriment cette énorme désillusion qui est la leur. Nous espérions qu'il allait délivrer Israël. Nous espérions qu'il allait résoudre nos problèmes. L'espoir se conjugue à l'imparfait pour eux. Nous espérions, mais c'est fini. C'était une illusion. On a vécu 3 années super, mais tout est terminé. Et le voyageur est là qui écoute. Tout ce qui s'est passé, jusqu'à cette histoire invraisemblable que des femmes ont racontée, ils terminent leur histoire en disant « Mais lui, ne l'ont pas vu. » Les femmes ont raconté une histoire étrange, mais lui, on ne l'a pas vu. Ainsi se termine la litanie des disciples. Et le voyageur prend la parole, il commence à les invectiver. Mes cœurs sans intelligence, est-ce qu'il ne fallait pas que ça arrive? Et le voyageur commence à parcourir les Écritures. Pendant que les 3 hommes poursuivent leur chemin, marchent ensemble, il explique que ce qui s'est passé, c'est complètement enraciné dans les Écritures. De Moïse au prophète, hein, Moïse, ça veut dire les 5 premiers livres de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, Genèse, Lévitique, etc. Et puis les prophètes, c'est aussi bien les livres historiques que les prophètes. Hein, donc voilà, tout ce qu'on appelle assez injustement Ancien Testament, et il y a des gens qui préfèrent l'appeler le Premier Testament, parce que c'est toujours notre Bible et c'est toujours la Bible de nos frères juifs. Alors le voyageur parcourt tout ça, là ils ont 2 heures à marcher, il a un peu de temps. Il n'est pas en train de tirer de la Bible une morale, il n'est pas en train de s'occuper de rites, il est en train de donner un sens à tout ce qui s'est passé. Tout un sens à l'histoire de Dieu qui vient à la rencontre des hommes depuis la création, jusqu'à la venue du Christ et à sa mort sur la croix, en passant par toutes ces rencontres avec des hommes, avec un peuple, avec des prophètes, des événements à travers lesquels, dit le voyageur, le Christ est entré dans sa gloire. Et nos 2 disciples écoutent, assez fascinés par ce que raconte ce voyageur, cet étrange voyageur. Ils arrivent au village, et puis, naturellement, le voyageur, toujours dans cette manière humoristique de raconter de Luc, fait mine de continuer, comme si de rien n'était. Et puis, nos 2 disciples, qui sont des orientaux à l'hospitalité généreuse, naturellement, lui disent de rester pour prendre le repas, et puis passer la nuit chez eux. Et les voilà donc à table. Alors le voyageur prend le pain et prononce la bénédiction. Comme le font tous les juifs pieux. il bénit pas le pain hein, pour en faire un pain sacré, mais avant l'usage d'un bien, dans la tradition juive, on prononce une bénédiction, hein, c'est dire merci à Dieu, c'est reconnaître que tout vient de Dieu. C'est reconnaître que le monde nous est donné, mais qu'on n'en est pas propriétaire. Puis c'est reconnaître, parce qu'on le fait avec les autres, que les autres sont des frères avec qui on est appelé à partager ces biens-là. Il y a tout ce sens-là dans la bénédiction. Alors le voyageur, il fait un geste qui est commun pour les Juifs. Il n'est pas en train de célébrer la Sainte Cène. Et pourtant, pour nos deux disciples, quand ils reçoivent le pain de la main du voyageur, c'est là que leurs yeux s'ouvrent. Bien sûr, tout d'un coup, ils se retrouvent dans l'ambiance du repas pris avec Jésus 3 jours plus tôt, parce que c'était le... ça fait le jeudi soir, le dernier repas. Alors leurs yeux s'ouvrent, mais un très bref instant. C'est quand on comprend quelque chose comme ça, tout d'un coup, c'est tout, ça arrive même en mathématiques, hein, c'est-à-dire, c'est tout un tas de choses que vous aviez en vous, mais sans que vous puissiez comprendre, c'est comme caché derrière, puis tout d'un coup, ça se met ensemble, ça forme un tout, et on a compris. Ils ont compris le sens de la vie de Jésus et de sa mort sur la croix. Tout ce que Jésus avait dit, ça revient en mémoire, ça prend sens, ça veut dire quelque chose. Et puis, ils réalisent aussi que comment leur cœur brûlait pendant que Jésus racontait, pendant toute la route, ça leur revient en mémoire. Ils brûlaient tandis que Jésus leur ouvrait les Écritures. C'est intéressant ce mot « ouvrir » parce qu'il est encore ailleurs aussi plus loin dans les récits. Ça montre que la Bible, c'est pas un livre magique qui suffit de le lire, qui suffit de l'écouter, qui suffit d'étudier. On peut les étudier très longtemps et puis garder le cœur fermé. On a besoin quelque part que Jésus nous ouvre ses Écritures pour qu'elles prennent sens. Et puis aussi, dans ce partage du pain, je pense que ça signifie quelque chose pour nous, c'est que la foi, elle n'est pas faite... Elle peut difficilement se vivre seule, on a besoin de la vivre en communauté. Et les voilà complètement bouleversés, ils repartent. Je pense qu'ils ont quand même fini leur pas, mais ils n'ont pas passé la nuit, ils sont directement repartis à Jérusalem. Tout à l'heure, on avait des disciples désespérés qui partaient, donc c'était un peu la dispersion. Et puis là, le mouvement est dans l'autre sens, et les voilà qui vont retrouver les autres pour partager cette nouvelle et leur dire que oui, c'est vrai, le Seigneur est vivant. Et pourtant, ils ont eu qu'un flash, hein. Ils ont eu qu'un flash d'à peine quelques secondes. Mais cette fois, les yeux du cœur sont ouverts. Tout a pris sens à travers les Écritures, à travers la vie de Jésus qui a abouti à la croix, et puis dans cette communion qui est signifiée à la fraction du pain. Avec cette réalité de Jésus ressuscité, il me semble qu'on est dans un ordre de réalité qui dépasse notre compréhension. Et je repense à ce que nous disait Denise Félix dimanche dernier, qui nous parlait de ces 4 dimensions hein, mentionnées de l'amour de Dieu, avec sa dimension de la profondeur qui est comme en dehors de nos 3 dimensions d'espace qu'on peut comprendre. Je pense que c'est une image qui pointe effectivement vers quelque chose d'autre, un autre ordre de réalité que tout ce qu'on peut voir avec des télescopes ou avec des microscopes ou avec des instruments beaucoup plus sophistiqués qu'on a au CERN, ou avec les super ordinateurs du Brain Mind Institute de l'EPFL, qui essayent de faire des simulations pour comprendre comment fonctionne le cerveau. Là, on est dans un autre ordre de réalité. Je parlais de caméras, je ne sais pas trop ce que des caméras auraient pu voir, parce que les caméras, ce n'est pas fait pour voir cet ordre-là de réalité. En tout cas, dans les récits des évangiles, c'est sûr qu'il a fallu cette sorte de révélation intérieure aux disciples pour que leurs yeux voient le Christ ressuscité. Et ce qui est sûr aussi, c'est que pour eux, ça a vraiment changé tout. Ce qui apparaissait comme un échec de la croix se mue dans le plus puissant moteur qui les pousse à aller partager cette bonne nouvelle dans le monde entier. Partager cette certitude que le Christ est vivant avec les autres. Mais c'est vrai qu'il va falloir encore la Pentecôte pour qu'il se bouge vraiment. Alors voilà, mon souhait c'est que pour nous aussi, on puisse puiser dans ces récits la force de transformation qu'il y a dans le Christ, dans cette foi au Christ ressuscité, et puis aussi cette certitude de la présence de Dieu, de la présence du Christ qui aussi fait route avec nous, hein, comme à ses disciples, même dans des longs parcours où on ne le voit pas, il fait route avec nous, et puis il nous dit des fois des choses à travers d'autres personnes, on se rend pas compte que c'est lui sur le moment. Parce qu'il y a certains moments de nos vies où on a aussi les yeux qui sont empêchés de le reconnaître. Et pourtant, Dieu nous accompagne, c'est une réalité, et puis il nous attend pour ce qui est appelé vie éternelle, qui n'est pas la prolongation du présent, hein, mais qui est cette autre ordre de réalité de communion avec Dieu. Et puis c'est cette présence qui peut nous donner la force de vivre dans toutes les circonstances. On a eu un chant là qui parlait de cet amour de Dieu qui ne dépend pas des circonstances. Alors que ça puisse nous encourager sur notre route, quelles que soient nos circonstances. Amen.